Très bien. Donc, je remercie d'abord les organisateurs pour cette invitation. Je précise effectivement que je suis membre du LabEx Aztec, que j'ai participé pendant plusieurs mois à deux programmes, dont l'atelier numérique, et que celui-ci, désormais sous la direction d'Aurélien Béra, ici présent, et de Pierre-Antoine Fabre. Et je précise aussi que l'affiliation qui m'est attribuée au Cléo est très honorifique, mais je ne fais pas partie du Cléo, même si je suis très intéressé par leurs activités, si j'ai des liens de travail avec en particulier la plateforme Hypothèse. Donc je précise aussi que mon point de vue et mon discours sont ceux d'un historien des pratiques intellectuelles, des pratiques savantes sur la longue durée. Je viens du monde du papyrus et de la bibliothèque d'Alexandrie, donc il y a très longtemps. Je me suis intéressé cependant au numérique depuis les années 90, où j'ai eu la chance d'être associé au groupe de travail de la bibliothèque, de l'établissement public pour la Bibliothèque nationale de France, sur les postes de lecture assistés par ordinateur, qui étaient coordonnés par Bernard Stiegler, Alain Giffard et Jean Gattegnaud. Donc ce fut une époque de grande utopie où on travaillait avec des machines qui à l'époque étaient des monstres de puissance, des Mac 2 CI avec des disques durs de 20 mégas et des processeurs qui à l'époque étaient le nec plus ultra de l'informatique et des logiciels qui nous ont permis d'émuler ce qu'est le travail sur des bases de données, sur des corpus textuels en grandeur nature. Et c'était avant l'Internet, évidemment. Donc mon propos aujourd'hui est de vous livrer quelques réflexions modestes, programmatiques et très, très exploratoires sur les nouvelles formes de publication en sciences humaines. Je précise donc que ce sont des réflexions qui ont été considérablement enrichies par la lecture de différents travaux. Je pense au volume sur l'édition numérique de Marin Dacos et Pierre Mounier, qui date déjà d'il y a quelques années, publié à La Découverte, et également du volume Read, Write, publié sous forme numérique et sous forme imprimée, et qui regroupe différents textes tout à fait stimulants sur les pratiques d'écriture numérique. Donc la publication est à la fois la fin et l'instrument de la recherche en sciences humaines. La fin parce qu'il n'est pas de travail intellectuel dans la diversité de ses formes qui ne soit destiné à circuler, à entrer dans la sphère publique où les savoirs sont partagés et mis en débat. Et l'instrument parce que le propre du travail en sciences humaines et plus généralement du travail scientifique est de s'appuyer sur une bibliothèque, sur des sources premières, sur des sources secondaires. Les sources premières nous apportent les matériaux, les corpus de textes et d'images, les données mises en forme et en ordre. Les sources secondaires et la bibliographie moderne nous apportent la stratification des interprétations, des idées, des hypothèses, des gisements de pensée qui sont capables d'aiguiller notre propre réflexion, de l'infléchir et de l'enrichir. De la collection à la revue, du livre à l'article, mais aussi du chapitre à la page, aux notes, aux références bibliographiques, le chercheur se déplace à la fois verticalement, selon différentes échelles, et horizontalement, en traversant différents territoires disciplinaires. Les technologies numériques ont un impact plus ou moins visible, plus ou moins profond, à la fois sur les textes, mais aussi sur leur production, leur circulation, leurs usages, et in fine, sur leur statut lui-même. Il est peu de revues, peu de livres, même disponibles sous forme exclusivement imprimée, qui ne reposent aujourd'hui sur une chaîne d'édition numérique, depuis le fichier de traitement de texte remis par l'auteur, jusqu'aux étapes de la mise en page de l'impression. De nombreux éditeurs font aujourd'hui le choix d'un double format de diffusion, imprimé et numérique. Dans la forme la plus courante, le fichier numérique reproduit la mise en page du livre imprimé sous la forme d'un fichier PDF, ou permet des formatages différents, adaptant le texte aux différents formats des liseuses, des tablettes et même des smartphones. Un système de verrouillage par DRM, aujourd'hui dominant, limite la reproduction du fichier et en fait un artefact unique, comme le livre imprimé, sur lequel on possède une licence bridée plus qu'une pleine propriété. On ne peut ni extraire, ni imprimer, et parfois le transfert d'un support à l'autre est lui-même impossible. Le modèle économique est celui d'un prix d'achat à l'unité, légèrement inférieur au prix du livre imprimé, néanmoins assez élevé. Selon le degré de verrouillage du fichier, le logiciel ou le support matériel de lecture, le lecteur dispose d'un confort de lecture plus ou moins grand et de fonctionnalités plus ou moins ouvertes. J'ai fait moi-même l'expérience de fichiers PDF de certains de mes livres qu'il m'était pratiquement impossible d'utiliser à cause des DRM. Je préciserai d'emblée que l'édition numérique implique le même travail éditorial que l'édition imprimée. Préparation du texte, relecture critique, correction, uniformisation et cohérence, mise en page. La lisibilité d'un texte se construit. L'édition numérique ajoute à ce fond commun des pratiques éditoriales un nouveau niveau d'opération tenant au formatage du texte, à son balisage et à son enrichissement. Je m'attacherai aux éléments d'innovation en essayant d'abord de refléter l'existant puis d'ouvrir des perspectives sur des formes à venir. Certaines innovations ne font qu'optimiser notre usage habituel du livre imprimé. Je pense par exemple aux liens hypertextuels qui permettent de passer du texte principal aux notes de bas de page ou à la bibliographie, ou encore de passer d'un lieu à l'autre du livre. Je pense aussi aux tables des matières qui sont en fait des tables de navigation permettant d'accéder directement au chapitre ou au paragraphe souhaité en faisant l'économie du feuilletage. Il en va de même pour les index. Je pense aussi aux signets numériques et aux options de surlignage ou d'annotation, mais celles-ci sont tributaires de logiciels de visualisation et du support de lecture, et il est souvent difficile d'exporter ces éléments en dehors de leur environnement. D'autres caractéristiques, en revanche, ouvrent la voie à des modifications plus radicales de l'objet livre tel que nous le connaissons aujourd'hui. En premier lieu, les liens hypertextuels peuvent relier les unités d'un texte à un écosystème numérique large. Autres textes d'une même collection, autres articles d'un même numéro de revue, ou d'une plateforme de revue en ligne, carnet de recherche, etc. Ces liens peuvent aussi renvoyer à un périmètre plus ou moins éloigné du texte lui-même en associant tel ou tel mot ou passage avec les ressources de portail et de page web. Les liens hypertextuels relèvent donc d'une écriture de la connectivité, pensant des rapports entre des éléments à l'intérieur du texte ou entre le texte et son environnement numérique. Ces liens sont qualitatifs et qualifiés en ce sens qu'ils sont signifiants et traduisent une décision intellectuelle, un choix éditorial, présupposition, illustration, démonstration, complémentarité, documentation. L'ouverture du texte vers un contexte éditorialisé, vers le web, est un facteur nouveau. Le texte est un épicentre, le centre d'un réseau de relations, et c'est là, me semble-t-il, l'une des caractéristiques innovantes du texte numérique. Un second aspect important me semble être la remise en cause de la fixité et de la clôture du livre tel que nous le connaissons. Un livre imprimé peut certes connaître des éditions successives qui corrigent ou enrichissent le texte. Et les historiens du livre imprimé, comme Roger Chartier et Henri-Jean Martin, nous ont par ailleurs appris que parfois, à l'intérieur d'un même tirage, on modifiait le texte ou les planches d'illustration. La technologie numérique peut induire la même évolutivité des textes. Le repérage des versions et des changements successifs est dès lors déterminant. On peut penser à cette partie importante des pages de Wikipédia qui offre un historique de toutes les modifications et ajouts faits à un article singulier. Un livre numérique, par exemple un livre collectif, peut ainsi être évolutif et modulaire, se prêter à des ajouts successifs. Troisième facteur d'innovation, la remise en cause du partage entre lecteur et auteur. Le texte numérique, en effet, prend en compte les opérations traditionnelles du lecteur d'un texte imprimé, balisage, surlignage, annotation marginale, extraction. Il confère aussi au lecteur des prérogatives éditoriales avec une marge d'intervention plus ou moins grande sur la mise en forme même du texte. La lecture est indissociable de formes d'écriture et cela a conduit Hubert Guillot à définir le livre numérique comme un « read-write book », un livre inscriptible. La réflexion sur le livre numérique, toutefois, ne doit pas se limiter au format et aux spécificités techniques, mais doit aussi prendre en compte des usages particuliers. Je parle ici des textes savants, dont la lecture accompagne la réflexion, la préparation de séminaires ou de textes, la rédaction elle-même. Il faut donc expérimenter des formes de transitivité entre la lecture et l'écriture, entre le texte lu et le texte que l'on écrit, entre le texte et les carnets de notes ou les bases de données. Plus fondamentalement, il faut aussi permettre au lecteur d'associer le texte numérique, d'annoter le texte numérique, d'y inscrire ses propres balises, ses propres métadonnées. Un texte numérique savant est ainsi un instrument pour la réflexion et la recherche, non seulement pour le lecteur individuel, mais aussi pour des communautés de lecteurs qui pourraient capitaliser et mutualiser leurs usages d'un texte, leurs commentaires, leurs critiques sur des espaces numériques dédiés, par exemple sur des carnets de recherche. Ce serait l'équivalent des réseaux sociaux de lecteurs de la littérature de fiction. Enfin, il faut souligner le nouveau rapport entre les sources premières, le commentaire et l'interprétation qui est rendu possible par la technologie numérique. Et je me réfère ici au texte déjà ancien de Robert Danton, qui plaidait finalement pour un système permettant à la fois de préserver les contraintes de l'érudition, de la philologie, de l'édition, du commentaire des sources premières et de ces notes de bas de page qui sont souvent le cauchemar des éditeurs, avec l'interprétation, l'innovation, la critique, l'élaboration théorique, tout ce que le texte historique, sociologique, anthropologique permet de construire à partir des sources qu'il manipule. Je voudrais donc, pour conclure cet exposé, parler de deux projets dans lesquels je suis personnellement engagé. Le premier est un projet mené avec l'ENSIB, un projet qui s'intitule « Monde lettré ». Il s'agit, à partir d'un petit livre imprimé auquel j'ai participé il y a quelques mois dans le cadre du 20e anniversaire de l'ENSIB et qui se présentait sous la forme d'un dictionnaire avec un certain nombre d'entrées comme bibliothèque, écriture, ordinateur, fichier, etc. C'est-à-dire une approche très, très réflexive et critique et historique sur les pratiques et les objets du travail lettré. Il s'agit donc de transformer cela en univers numérique qui permettrait d'explorer l'univers de l'écrit et du livre, l'univers des bibliothèques. L'idée est d'associer des sources premières, des documents multimédia, des entrées pluridisciplinaires relevant de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, et également des commentaires pouvant s'appuyer sur l'expérience personnelle et professionnelle des milieux de la recherche et de la documentation. Il y aurait ainsi différents niveaux de textes, tous structurés par des entrées organisées par ordre alphabétique. Il y aurait un nuage de mots-clés et des liens internes et externes éditorialisés qui permettraient de passer des uns aux autres. Il y aurait un cercle de rédacteurs invités et une ouverture à un public beaucoup plus large avec une modération des textes qui seraient apportés à la fois par ses scripteurs et par ses commentateurs. Et enfin, ce dispositif serait disponible en impression à la demande, où les lecteurs utilisateurs pourraient déterminer eux-mêmes l'enchaînement des entrées, la sélection d'entrées qu'ils souhaiteraient maîtriser sous une forme imprimée. Donc ce projet est en cours d'élaboration et le lancement est prévu pour l'automne 2013. Le second projet que je voudrais présenter et qui est un travail au long cours est celui de la nouvelle étape d'une entreprise qui a été commencée sous forme imprimée, le projet des lieux de savoir, et qui se poursuivrait donc avec un intitulé différent, lieux de savoir 2.0. L'objectif serait une exploration interdisciplinaire et comparative de l'histoire des savoirs humains sur la longue durée, dans le pluriel des cultures, non pas sur un mode encyclopédique, mais pour renouveler l'approche des acteurs, des pratiques, des lieux et des instruments. Ce serait donc un ensemble d'études de cas centrées sur des moments, sur des lieux, sur des personnages, sur des objets, et ces études de cas seraient articulées par des textes théoriques et méthodologiques. L'ensemble aurait une dimension éminemment réflexive, puisqu'à travers ces études de cas, les chercheurs et les auteurs seraient invités à réfléchir sur les mutations actuelles qui modifient nos pratiques, nos modes de construction et de matérialisation et de diffusion sociale des connaissances. Donc pour cette nouvelle phase, nous nous proposons de donner à ce chantier collectif un rôle pilote et expérimental, une expérimentation en grandeur nature des nouveaux modes d'écriture et de diffusion des savoirs en sciences humaines qui peuvent s'appliquer à la fois sur les techniques de l'édition traditionnelle et sur des modes de diffusion et d'écriture plus innovants. Donc l'idée serait de mettre en œuvre un processus éditorial associant le livre imprimé ou imprimé à la demande, le livre numérique comprenant des fonctionnalités originales comme la veille éditorialisée sur le web, l'adjonction de sources premières et de contenus multimédia, des plateformes de travail collaboratif, d'annotation, de commentaires qui pourraient s'appuyer par exemple sur l'écosystème des carnets de recherche et des revues du Cléo, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur le monde des bibliothèques universitaires et de lecture publique. Le livre numérique pourrait ainsi permettre d'établir un ensemble de liens intelligents avec toute la bibliographie mobilisée, par exemple avec les portails Cairn, Gistore, Percé, Revue.org et autres. Il y aurait ensuite une déclinaison de ce projet sous forme de tablette tactile qui pourrait offrir de nouveaux contenus sous une forme différente, des univers de lecture, selon l'expression de Frédéric Kaplan, adaptés par exemple à un public scolaire ou étudiant, et qui permettraient de parcourir l'ensemble de ces textes, l'ensemble des savoirs ainsi constitués, sous des formes non linéaires, à partir de choix à l'intérieur d'un nuage de mots-clés, à partir de cartes géographiques, à partir de tables chronologiques. Donc ce projet est en cours de construction et mobilise le Cléo, les éditions de l'école et les publications de la Sorbonne, de Paris 1, et bénéficiera sans doute du soutien du Labex Aztec. Et l'idée serait donc de permettre, dans le cadre de l'EHESS, une expérimentation interdisciplinaire ouverte aussi bien aux étudiants de master et de doctorat qu'aux enseignants-chercheurs sous la forme de séminaires et de lieux d'écriture en ligne. Donc pour terminer, je dirais simplement que ce projet, lieu de savoir 2.0, le sous-titre actuel est la construction sociale des savoirs, avec donc différents pôles thématiques, les fondateurs de tradition, les formes de l'enseignement, les pouvoirs de l'écrit et leurs limites, oralité, littéralité, autosuffisance de l'écrit, nouveaux modes d'écriture et de lecture des savoirs à l'ère numérique, une anthropologie historique de l'autorité, les régimes de vérité et de preuve, ce que l'on appelle les mobiles immuables, c'est-à-dire les dispositifs de rassemblement et de mise en forme des savoirs, depuis les atlas et les mappons jusqu'à Wikipédia et aux nouveaux projets de bibliothèque universelles, et enfin l'architectonique des savoirs, c'est-à-dire tout ce qui permet de relier des connaissances, des champs de savoir, dans des ensembles construits comme les arts libéraux de l'Antiquité, du Moyen-Âge, le Trivium, etc. Donc je conclurai en disant que le chantier qui s'ouvre pour des chercheurs en sciences humaines, aussi bien dans le domaine des sciences sociales que des humanités, des disciplines d'érudition, le chantier est finalement celui d'une démarche extraordinairement réflexive entre l'objet de recherche, le médium de la publication et de la mise en œuvre, et l'invention de nouvelles pratiques à la fois d'écriture, de lecture et de diffusion de recherche, de diffusion des résultats de la recherche. Ce projet est à la fois une bibliothèque qui permettrait différents modes de lecture, lire des textes, les confronter, les comparer, les critiquer, circuler des uns aux autres, choisir des accès non linéaires mais problématisants, à partir de métadonnées inscrites par les auteurs eux-mêmes, donc un espace de lecture, mais aussi de recherche, de requête et de réflexion. Ce projet est également un scriptorium avec différents niveaux d'écriture, études de cas, textes théoriques, commentaires, nouvelles études de cas, avec donc des pôles thématiques que je viens d'énumérer et qui donneraient lieu à des arborescences et à des cercles de plus en plus étendus permettant l'adjonction de nouvelles contributions. Bibliothèque, scriptorium, ce serait également un projet laboratoire avec une dimension heuristique, interdisciplinaire et comparatiste et donc une réflexion de grande envergure sur la construction des savoirs hier et aujourd'hui, ailleurs et ici, et sur la construction des savoirs tels que nous les pratiquons, nous, à l'École des hautes études. Ce serait aussi un projet expérimental associant l'imprimé et le numérique, l'écran d'ordinateur et l'écran de tablette. Ce serait un projet à la fois construit, structuré, pensé et ouvert, prenant le risque de l'évolution, des métamorphoses, en favorisant par exemple la transitivité et la transformation des contenus entre différents environnements et supports de lecture et d'écriture, de l'écran à la tablette, du livre imprimé au carnet de recherche. Et comme cela a été signalé dans les interventions précédentes, nous souhaitons nous appuyer sur un format ouvert et sur l'absence de format propriétaire pour permettre la transitivité de ces contenus, de ces textes et de ces savoirs dans les milieux les plus divers et avec les technologies les plus diverses. Ce projet serait enfin une expérimentation également économique, une expérimentation en grandeur nature sur la viabilité de telles entreprises d'édition en sciences humaines, avec sans doute une partie payante, les fichiers enrichis, les textes imprimés à la demande, et une partie en libre accès, car nous considérons que des chercheurs qui travaillent sur les savoirs, l'histoire des savoirs, la formalité des savoirs, doivent les diffuser le plus largement possible à l'intérieur de la cité et dans les différents espaces de culture, d'apprentissage et de réflexion. Et enfin, je terminerai en disant que ce projet serait une expérimentation pour construire de nouveaux collectifs savants, des collectifs qui associeraient auteurs et lecteurs, enseignants-chercheurs, masterants et doctorants, et qui permettraient, comme c'est la vocation de l'école, d'apprendre et d'enseigner la recherche par la recherche elle-même, et de contribuer à des réflexions fondamentales dans notre cité actuelle sur les savoirs, la mémoire, l'écrit, la transmission. Je vous remercie.
Merci. Oui, merci beaucoup pour cet exposé, ce projet. Justement, alors j'ai une question, parce qu'une formule de Bruno Latour a été employée, mobiles, immuables. Les collectifs, visiblement, ont exclu les entités numériques non humaines qui pourraient venir lire, se balader dans cet univers. Alors, comment ce partage, parce que lecteur, contributeur humain, alors que dans les humanités numériques, moi j'entends, mais c'est peut-être une déviation du fait de nos propres pathologies, hein, puisqu'on développe des intelligences artificielles, des contre-intelligences artificielles. Comment aujourd'hui se pose la question du droit des robots, d'ailleurs de plus en plus, c'est intéressant. Vous parlez d'écosystème. Alors bon, il se trouve que je travaille beaucoup sur l'environnement. Là, je trouve qu'il y a une métaphorisation qu'il faudra travailler, puisqu'on a parlé avec Eric Guichard ce matin de faire attention au langage. C'est vrai que je ne sais pas si le transfert comme ça, déjà dans le monde de l'écologie politique, c'est compliqué, les écosystèmes. Donc attention, là aussi, il faudrait peut-être faire un jour un atelier sur cette métaphorisation de l'écosystème numérique. Enfin, il y a du vivant dans les écosystèmes en cause, et là, bon, le vivant, il est où? C'est intéressant de regarder de quoi on parle, quoi. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui émerge. Et donc, justement, dans cet écosystème, est-ce que les entités numériques, les robots, les bots, lecteurs, avares de tout, d'ailleurs, de toutes sortes de choses, ont une place, ou est-ce qu'ils ont d'emblée été exclus, en fait, pour la génération suivante? Je ne sais pas.
Alors, effectivement, pour écosystème, c'est une métaphore, mais qui me paraît intéressante. On pourrait aussi parler de cartographie, d'espace cartographique, et ce sont des métaphores qui me tiennent à cœur également. L'idée d'écosystème me paraît intéressante par la complémentarité et l'organicité qu'elle implique entre des supports, des outils, des modes de diffusion très, très différents, et qui visent finalement à produire des types de savoirs et de connaissances qui ne sont pas simplement l'addition des médias ainsi articulés. Donc c'est peut-être un petit peu abstrait, idéaliste. Je crois que c'est par une expérimentation qu'on arrivera à soit confirmer, soit infirmer cette hypothèse. Pour ce qui est des lectures automatisés ou des lecteurs non humains. À ce stade, et sans avoir moi-même l'expertise technique que tu peux avoir ou que d'autres ici ont, je pense qu'il y a certainement un travail d'éditorialisation et de construction par les auteurs, les chercheurs et les éditeurs eux-mêmes de tous les carrefours, de tous les relais, de toutes les bifurcations qui peuvent conduire une lecture automatisée vers des pistes heuristiques. Et cela passe par des listes d'autorités, par des métadonnées sur les noms propres, sur les périodes historiques, les lieux, par une qualification des instruments de savoir et de grandes catégories. Voilà. Pour ce qui est de ce projet que nous avons des univers de lecture, donc c'est une troisième métaphore après écosystème, carte et univers, là il s'agirait effectivement de permettre un accès heuristique, voire ludique, dans le cadre par exemple d'apprentissage scolaire, aux matériaux assemblés et édités dans ce projet de recherche. À partir d'hypothèses, par exemple à partir d'une map-monde, si je relis la Silicon Valley et le Tibet avec le doigt, donc on traverse 2000-3000 pages d'études, de commentaires, etc. Qu'est-ce qui est mis en valeur? Quelles sont les étapes intermédiaires? Est-ce qu'il y a du sens ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc voilà, c'est un petit peu ce type d'hypothèses sur lesquelles on voudrait travailler.
C'est une question très intéressée de formateur d'enseignants que je suis. Je suis impliqué dans un autre projet du LabEx qui consiste à écrire des collections de textes hiérarchisées dans lesquelles nous voudrions impliquer des enseignants. Alors je rebondis immédiatement à la fois sur la première question et puis sur les allusions que tu as fait à la transitivité entre l'espace du livre numérique qui est prévu dans le projet et celui de tablettes accessible à un public comme par exemple celui d'étudiants, voire d'élèves. Et finalement, assurer cette transitivité, c'est presque une définition du rôle de l'enseignant moderne qui renouvelle ses pratiques. C'est toujours quelqu'un qui est en train de reconstituer ses ressources et d'en constituer pour ses élèves. Et là, dans l'espace numérique, c'est plus ou moins ce qu'il est amené à faire. Donc ma question est très simple. C'est parmi les forums collaboratifs auxquels tu as fait allusion, est-ce qu'il y en a qui sont spécifiquement des forums d'enseignants en exercice et qui se posent justement cette question de la transitivité dont tu as parlé.
Tu veux dire parmi ces pôles thématiques que...
Parce que tu as fait allusion par rapport à tout l'espace qui environnait le livre numérique prévu, à des espaces collaboratifs.
Oui, tout à fait.
Voilà, je voulais savoir si ces espaces collaboratifs, il y en avait certains qui étaient explicitement orientés vers une problématique d'enseignement au sens où je viens de l'entendre, c'est-à-dire de constitution de ressources sur un support numérique, sur un support de tablette qui soit donc accessible à un public scolaire, par exemple.
Tout à fait. Donc là, nous sommes aussi dans une perspective de construction, c'est-à-dire que j'ai encore rien de concret à montrer, mais une collaboration est envisagée avec le rectorat de Grenoble et des inspecteurs de l'éducation nationale, je pense en particulier à Guy Cherki. Nous allons certainement avoir une action concertée avec des enseignants du secondaire, sous forme de masterclass, en particulier sous forme d'expérience pédagogique. Et je précise aussi que les antiquisants, enfin communauté à laquelle j'appartiens, travaille aussi sur l'idée de masterclass pour les profs de classe préparatoire et de lycée, de collège, à partir du même projet.
Donc la présentation qui s'intitule donc les humanités numériques, un espace polyphonique, va être aussi une espèce de polyphonie, au moins à trois, puisque donc elle va être présentée par Aurélien Béra, qui est de l'université donc Paris-Ouest-Nanterre, Paris 10, et qui a récemment commis un papier qui s'appelle « Faire des humanités numériques ». Donc on est en plein dans le sujet. Ensuite, donc Marin Dacos, qui est le directeur et le fondateur du Centre pour l'édition électronique ouverte donc de Cléo. Il a aussi co-créé le logiciel Lodel et un certain nombre de portails, dont revue.org, calendarrevue.revue.org, les calendriers des sciences sociales, hypothèses et plus récemment, Open Edition Book. Et donc le troisième la troisième personne, donc, est Pierre Mounier, qui est donc directeur d'études à l'EHESS, hein, directeur adjoint du CLIO. Pardon ? Ah, c'est pas vous ? Ingénieur d'études, bon, c'est pas grave. Donc, il a fondé, et c'est intéressant, un portail qui s'appelle Homo Numericus, hein, qui est un portail d'information et de réflexion sur les enjeux sociaux et politiques des nouvelles technologies. Et il a publié en 2001 « Les maîtres du réseau, une histoire politique d'Internet ». Donc, je vous donne la parole, et ça va être intéressant d'avoir justement cette polyphonie à trois.
Bon. Bonjour à tous. Alors, je vais introduire notre présentation collective en mettant en avant quatre enjeux qui nous apparaissent importants pour les humanités numériques et qui ont été discutés depuis 4 ans dans le cadre de notre séminaire commun, Pierre Mounier à moi, et puis Aurélien Béra qui nous a rejoint cette année. L'idée étant de continuer à ouvrir le plus largement possible ce séminaire généraliste pour les humanités numériques et de ne pas en faire une coterie ou un isolat. Alors, premier enjeu, l'inscription dans la durée, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Deuxième enjeu, la redéfinition du travail collectif. Troisième, l'appréhension des grands corpus, même si ce n'est pas le seul problème d'instrumentation qui existe. Et puis, la définition d'un socle de principes communs. Alors, je voudrais juste rappeler que les DH, ce n'est pas du tout nouveau. Et il y a des projets qui se sont inscrits dans la durée et qui ont survécu aujourd'hui. Et donc, c'est important de les citer parce que certains ont plusieurs décennies. Et donc, les humanités numériques, c'est juste une étiquette sur quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps. L'index Domesticus de Roberto Busa, qui est mort récemment. Pas l'index, Roberto. Ensuite, le projet Gutenberg, qui est l'ancêtre de l'édition électronique qui date de 1971, le TI Consortium qui a produit la norme TI du même nom qui date de 1987, donc qui vit toujours et qui continue à se développer, la liste de discussion humaniste qui, depuis 1988, associe les gens qui s'intéressent à ces questions et le trésor de la langue française informatisée depuis les années 90. Alors, ce qu'on voit dans cette liste d'exemples, c'est qu'il y a une grande diversité d'objets et aussi, non seulement des objets, des formats, mais aussi de la conversation, ce qu'on appelle la conversation. Et je voudrais qu'on apprenne quelque chose de ces projets qui se sont inscrits dans la durée et qui ont survécu au mode. Deuxième point, on essaie de redéfinir le travail collectif, notamment à travers des non-conférences, terme un peu provocant, qui a pour objectif de dire qu'à côté des conférences et des colloques traditionnels, on peut aussi avoir des rencontres horizontales autour de tables dont le programme n'est pas défini initialement, mais qui est voté par les participants de l'Assemblée le matin même. Et puis le séminaire virtuel permanent, expression que j'emprunte à André Gunther et que nous développons autour de Hypothèse et d'autres plateformes comme Culture Visuelle qu'André a fondée. Sur les grands corpus, un exemple, celui que nous avons développé grâce à un double financement de Google, qui est un programme qui s'appelle Bilbo, qui a pour objectif d'annoter des références bibliographiques. Vous voyez à gauche des annotations de références bibliographiques faites à la main, donc qui sont correctes, parce que les humains sont bien entendu meilleurs que les machines. Et à droite, l'annotation automatique produite par Bilbo, l'objectif étant d'enrichir structurellement les références bibliographiques sur la base d'un corpus d'apprentissage, pour ensuite partir de cette référence qui est non structurée, la structurer en XML automatiquement, pour enfin pointer vers la ressource électronique quand elle existe, grâce à l'existence d'identifiants uniques qui sont les DOI. Bon, c'est un exemple qui doit fonctionner sur des dizaines de millions de références bibliographiques. Donc, évidemment, on ne va pas embaucher une armée d'esclaves pour enrichir ces données. On va plutôt transformer l'ordinateur en notre esclave, idéalement l'inverse n'étant pas le mieux. Alors, Eric Guichard a évoqué, par écrit, puisque par oral il ne l'a pas fait, le manifeste des humanités numériques ou des digital humanities qu'on a développé dans le cadre de notre rencontre, la première, le ZATCamp qu'on a organisé à Paris il y a 3 ans maintenant. Il l'a critiqué par écrit, donc je vais le défendre par oral. Alors, ce manifeste a une affiche, vous voyez qu'on passe de temps en temps par le papier. Et il a un certain nombre de principes qu'il énonce de façon à construire une communauté que nous appelons une communauté de pratiques. Donc nous nous constituons en communauté de pratiques solidaire, ouverte, accueillante et libre d'accès, qui est un des termes importants de notre manifeste. Un appel pour le libre accès, parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à diffuser en libre accès les contenus qu'on travaille, on va avoir beaucoup moins d'efficacité sociétale culturelle, mais aussi scientifique, et un appel pour les possibilités, dans la mesure du possible, hein, la même chose pour le libre accès, seulement dans la mesure du possible, un appel pour le libre enrichissement, pour que les données, comme l'enquête d'ETRA, puissent ensuite, la grande enquête d'ETRA des années 80, puissent ensuite être enrichies par les générations de chercheurs suivantes, et qu'on ne reparte pas à zéro, alors que cet enrichissement libre puisse avoir lieu sur du code, sur les méthodes, sur les formats, comme sur les résultats. Et puis nous avons appelé dans le manifeste à la construction d'une compétence collective. Il paraît évident qu'on peut faire des DH en amateur et qu'on va réinventer la roue 300 ou 400 fois. Et donc il semble plus efficace de se constituer en groupe avec la diffusion de bonnes pratiques qui ne doivent pas être des carcans et la mise en place de cyberinfrastructures qui doivent suivre le mouvement et pas le précéder, parce qu'on a vu beaucoup de plans, grands plans calcul ou des choses comme ça qui ont été décidés sur le coin d'une table et qui n'ont pas fonctionné. En revanche, nous avons besoin d'infrastructures numériques pour inscrire dans la durée nos projets, à la fois pour éviter les redondances, les dispersions, les impasses, c'est-à-dire arriver à trouver dans des infrastructures numériques un bon équilibre entre liberté de recherche, splendide isolement du chercheur et aussi domination de l'informatique et pas domination par l'informatique. Donc l'inscription dans la durée, ça va être ma conclusion avant que je passe la parole à mes petits camarades. S'appuie sur un problème qui est que le numérique, ça coûte extrêmement cher, ça mobilise beaucoup de temps. Le projet magnifique qu'a présenté Christian Jacob est pharaonique au titre de la charge de travail qu'il va impliquer, non seulement pour la création, puis ensuite pour la maintenance du projet. Donc il ne faut pas laisser croire que ça ne coûtera rien à personne. Et avec l'augmentation des coûts et de la complexité, les risques de perte de contrôle sont évidemment proportionnels à ces facteurs. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer d'inventer des infrastructures numériques à l'échelle nationale. On appelle ça la bibliothèque scientifique numérique. Et à l'échelle européenne, on appelle ça Daria notamment, mais il y en a d'autres, il y a Clarin aussi, qui sont des infrastructures numériques qui essayent de coaliser, de mutualiser, de faire converger de façon la plus distribuée possible nos travaux. Et il ne s'agit pas d'un projet européen parmi d'autres. Le NIM projet qui va s'étendre dans 3 ans, Daria, est un ERIC qui vivra au moins 20 ans. Et donc il s'agit d'un endroit où il y a peu d'argent, mais beaucoup de coordination, plutôt que d'habiller l'inverse, et d'un endroit où on va pouvoir essayer de mutualiser, donc essayer d'éviter d'être dominé par la roue dentée ou d'avoir à la réinventer dans chaque ville, dans chaque université, dans chaque pays.
Merci beaucoup. Alors mon rôle dans cette présentation maintenant est en quelques minutes de revenir un peu sur les objectifs et puis ce qui s'est passé dans ce séminaire sur les Digital Humanities que Marin et moi nous avons créé il y a plus de 3 ans maintenant à l'EHESS pour essayer d'en tirer un peu les idées essentielles. Quand on l'a créé, notre objectif était de créer un lieu de discussion pour les Digital Humanities en France où tous les acteurs puissent, qui s'y reconnaissent ou ne s'y reconnaissent pas nécessairement d'ailleurs, puissent venir y discuter, échanger informations, idées et éventuellement, bien sûr, exprimer leur dissensus entre eux. Ce dispositif, ce séminaire, en fait, est une brique d'un dispositif plus large où notre action, si vous voulez, au cours des dernières années, a consisté à essayer de créer des espaces de discussion, des espaces d'échange interconnectés. Donc le séminaire en est un cas, mais il ne faut pas oublier la liste Digital Humanities que nous avons aussi créée à peu près au même moment. C'est le résultat d'une fusion en fait avec la liste interne du séminaire qui a été donc ouverte de manière beaucoup plus large. Les AdCamp dont Marin a parlé, celui de 2010 et celui de 2012, mais aussi, Christian en a parlé, Hypothèse, qui est sur lequel on retrouve maintenant un nombre croissant de carnets de recherche en Digital Humanities qui communiquent entre eux, qui dialoguent entre eux par le biais des commentaires, par le biais des billets croisés et ainsi de suite. Donc véritablement une multiplicité de lieux de discussion. Alors cette manière de voir les choses et de travailler en Digital Humanities correspond à une conception, on va dire, large et ouverte, qui se retrouve d'ailleurs dans le manifeste des Digital Humanities et que Patrick Svensson qualifie de trading zone et de meeting place, au-delà donc du flou qui a été critiqué ici et là sur cette notion de digital humanities, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas exactement ce que c'est, chaque terme est critiquable, l'alliance des deux termes est critiquable, certes, mais pour la plupart des acteurs, les digital humanities, c'est d'abord ça, c'est-à-dire un lieu où des discussions et des échanges ont lieu autour de l'alliance, de l'articulation entre recherche et technologie. Alors, cet aspect est apparu dès les premières séances, les deux premières séances que nous avons organisées, il y a plus de 3 ans maintenant, dans ce séminaire, en invitant d'abord Lou Bernard à venir faire un historique rétrospectif du développement, d'abord de ce qui était Literary and Linguistic Computings, puis Humanistic Computings, puis Digital Humanities, donc il nous a bien resitué cette profondeur historique, et puis en invitant Corinne Velger-Barbosa aussi à venir présenter la manière dont les Digital Humanities se développait, en particulier dans les centres de Digital Humanities qui se structuraient depuis plusieurs décennies maintenant sur la côte est des États-Unis. Et donc ce qui apparaît, c'est au-delà du contour flou théorique autour de cette notion, par contre, il y a des pratiques qui sont bien ancrées et bien existantes. Alors ça, on l'a vu aussi sous différentes manières dans notre séminaire. Nous avons eu un certain nombre de séances de notre séminaire où un certain nombre d'intervenants que vous avez ici sont venus parler des digital humanities de leur point de vue, à partir de leur discipline. Et le premier point qui apparaît, c'est donc cette grande diversité des disciplines. Et moi, personnellement, par exemple, ce qui m'intéresse dans cette notion de digital humanities, dans son ouverture, dans son flou aussi, c'est qu'on y retrouve à la fois des sciences sociales, mais aussi des sciences humaines, qui du coup vont échanger un certain nombre de choses, vont échanger un certain nombre de problématiques et de trouvailles éventuellement, alors qu'elles n'étaient pas prédestinées à le faire du fait de l'étanchéité disciplinaire que l'on connaît. Donc les digital humanities, de par leur flou et la dynamique qu'elles permettent aussi ces échanges horizontaux. L'autre aspect, c'est que les projets que nous avons invités, donc nous avons invité un grand nombre de projets de recherche en digital humanities. La caractéristique qui les relie, c'est leur aspect collectif. Et nous, ce qui nous intéressait énormément, et c'est là-dessus que nous avons beaucoup titillé nos intervenants, c'est comment est-ce que, entre ingénieurs et chercheurs, entre technique et recherche, vous vous articulez, comment est-ce que vous travaillez ensemble, quelle est la part de décision qui revient aux uns et aux autres, quels sont les objectifs que chacun poursuit, et c'est ça qui me semble un des points les plus intéressants à discuter au sein de ce champ des digital humanities. Et là, vous en avez un exemple, puisque chacun de ces projets est collectif et ancré sur des pratiques qui allient technologie et recherche. Alors, on est allé un peu plus loin l'année dernière en faisant un séminaire pour ceux qui ont participé, vous vous en souvenez peut-être, complètement ouvert et assez déstructuré, il faut bien le dire, parce qu'il était construit autour de la construction d'un travail collaboratif pour la préparation du ZATCamp qui a eu lieu au mois de septembre ici même de cette année. Et toute l'année dernière, nous avons complètement ouvert la préparation de ce ZATCamp et la préparation d'ailleurs d'un ouvrage collectif qui a accompagné l'organisation du ZATCamp, c'est-à-dire le Read Write Book 2 sur l'introduction Digital Humanities. Donc cet ouvrage d'un côté et le ZATCamp de l'autre, la non-conférence, ont été complètement crowdsourcés, je pourrais dire, par l'intermédiaire à la fois du séminaire, de la liste de discussion, et tout un tas de personnes sont venues contribuer à l'élaboration de ces principes. Et on est allé jusqu'au bout du travail collaboratif avec la publication donc des non-actes de la non-conférence dans la non-collection des éditions des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. On a travaillé en book sprint, hein, c'est-à-dire en travail rédactionnel collectif pendant 3 jours de manière très très intensive pour rédiger les actes ou les non-actes de cette non-conférence. Ça a été un moment très très intense et une vraie partie de plaisir aussi d'ailleurs. C'était une illustration de la manière dont les digital humanities aussi sont une occasion de renouveler, de faire évoluer les pratiques rédactionnelles de manière collective, de manière collaborative. Et Christian en a parlé justement, donc je pense qu'on se situe dans la même tradition. Alors, ce travail sur les digital humanities favorise aussi des rencontres, parce que c'est dans ce cadre que, justement, Marin et moi, nous avons rencontré Aurélien, qui avait son propre séminaire où il abordait les mêmes thématiques, mais de son point de vue particulier. Et maintenant, pour moi, l'occasion de lui passer la parole, justement.
Oui, donc j'ai la charge maintenant de parler du présent et de l'évolution récente du séminaire, ce qui implique effectivement de voir pourquoi il y a une sorte de convergence entre nous et de quelle manière le séminaire déstructuré continue à l'être tout en étant très structuré aussi. J'ai d'abord participé comme auditeur au séminaire de Pierre et Marin. Dès la première année, pas aux premières séances, pas les toutes premières, mais la première où était présenté en février 2010 un projet du Grill, justement, et une présentation pratique et problématisante de la TEI, donc de ce format d'encodage des données. C'était assuré par Nicole Dufourneau, et ça faisait partie des stimulations les plus intéressantes de cette période de découverte pour moi, non pas tellement des humanités numériques, mais de la communauté française des humanités numériques, dans la mesure où, étant antiquisant, j'avais plutôt des relations et un intérêt pour ce qui se faisait chez les digital classicists. Rien à voir, évidemment. Une autre communauté, un réseau s'appelle comme ça, du reste. Donc, par le biais des études anciennes, j'en suis venu à m'interroger sur les médiums d'analyse, de diffusion, et je crois que les deux sont extrêmement importants à lier l'un avec l'autre. Et après le séminaire de la première année, en suivant les autres séminaires dont Pierre vient de parler, j'ai évidemment continué à suivre la liste DH que Pierre a mentionnée et participé aux différents DATCAMP, puis au Read White Book 2, qui faisait l'objet du séminaire de l'an dernier. C'est ce qu'évoquait Blandine Brill en me présentant. J'ai assuré 2 ans, en revanche, si je reviens à 2010, des conférences complémentaires à l'HESS, qui semblaient, et qui de fait étaient, un très bon cadre pour des réflexions interdisciplinaires sur le sujet textes anciens et humanité numérique, tout d'abord, en 2010-2011, où les séances avaient une portée relativement générale. Et je dois dire que la dérive progressive de cette réflexion, pour moi, en compagnie des auditeurs et participants, c'était la découverte, peut-être prévisible, que tout ce dont je parlais n'était pas proprement spécifique. C'est-à-dire que c'est le dialogue avec des médiévistes, par exemple, qui était intéressant, et que, par ailleurs, la dimension historique et interdisciplinaire faisait que ce que je pouvais connaître et les gens que je connaissais n'étaient pas les seuls interlocuteurs, et qu'il y avait toute une dimension à réinventer. C'est ce qui m'a conduit l'année suivante à intituler le séminaire « Édition savante et humanité numérique ». C'était la deuxième année de conférences complémentaires, donc la dernière. Ce projet s'enracinait de fait dans une édition savante, qui est l'édition d'un auteur grec des 2e, 3e siècles, un compilateur qui s'appelle Athénée, qui, si je dois dire d'un mot pourquoi il est intéressant pour moi et pour l'édition numérique, est avant tout un très, très intéressant cas d'intertextualité, ce qui implique une dimension théorique, élaborée dans les études littéraires depuis longtemps, une dimension historique sur les pratiques savantes antiques et à toutes les époques de la transmission d'un texte, et une dimension technologique, évidemment, comment réinventer ce travail avec les textes, au sein d'un texte, dans notre environnement numérique et notre bibliothèque numérique, tout à fait émergente pour le grec et le latin. À partir de cet intérêt de recherche, j'ai donc animé ces séminaires, et le séminaire de 2011-2012 était structuré par cycle. Voilà où l'on retrouve la structure. Des projets étaient présentés, en particulier sous la catégorie « situation » de l'édition savante. Il y avait donc des invités, des aspects de l'édition numérique, c'était une partie plus théorique et historique, et surtout un atelier de lecture où je présentais et discutais des ouvrages importants dans différentes langues, mais surtout en anglais, en l'occurrence pour cette année, du champ des humanités numériques, et qui remontait bien avant l'invention du mot même, évidemment. C'est ce qui a conduit à ce programme que vous voyez, qui entremêle les cycles, et ce qui a conduit surtout pour le séminaire Digital Humanities de cette année à réintroduire, en plus des projets, la dimension historique et théorique des lectures de textes, qui est devenue donc une partie, en alternance avec d'autres séances, de notre programme. Chemin faisant, il y a donc une sorte de convergence, et ce que j'aimerais dire, c'est que cette convergence me semble tout à fait logique, dans la mesure où il s'agit de s'intéresser à l'édition, dans toutes ses dimensions, du travail savant à la dimension technologique et sociale de fondation, de formation de communauté qu'elle implique. La définition même des digital humanities n'est pas quelque chose que nous pouvons aborder maintenant. Ceci est le texte de présentation du séminaire sur l'annonce de l'HESS. Et j'aimerais simplement insister sur les différentes dimensions que nous isolons. Ces différentes dimensions reprennent les moyens d'analyse, les moyens de communication, les moyens de publication. Et il me semble que s'il y a quelque chose de spécifique aux digital humanities, et si certaines personnes se reconnaissent dans ce terme comme une bannière, eh bien c'est avant tout parce qu'il y a une communication de ces différents champs et de ces différentes disciplines et de ces différents aspects du travail savant et de ses relations avec la société, ce qui est le dernier niveau mentionné dans l'argumentaire. Pour finir, j'aimerais dire que depuis quelque temps, nous employons de plus en plus cette étiquette de digital humanities comme un terme tactique. Le terme avait été introduit dans les Debates in the Digital Humanities de 2012 par Matthew Kirschenbaum, qui précisément expliquait pourquoi l'étiquette de digital humanities aux États-Unis et en Angleterre était un terme de marketing assumé comme tel, et de quelle manière il y avait une sorte de tournant critique aussi dans les humanités numériques américaines et internationales pour aller bien au-delà de cette dimension et en quelque sorte récupérer le passé de la discipline. C'est ce que nous faisons avec les séances passées du début de l'année et surtout avec les séances de lecture, j'insiste sur ce dernier point, car il y en a encore à venir, et parce que la prochaine nous permettra d'accueillir deux chercheurs italiens, Domenico Fiormonte et Tito Orlandi, qui font partie de deux générations différentes des humanités numériques italiennes, et c'est l'autre dimension, en plus des lectures que nous avons introduites cette année, avec cette question de l'internationalisation et de la communication entre des traditions savantes, tradition des humanités numériques nationales. Donc la dimension européenne est un des grands axes dorénavant aussi de ce séminaire. Vous avez le programme. La dimension européenne est portée en relation avec les projets du campus Condorcet. Et en conclusion, j'aimerais dire que ceci est l'annonce de la prochaine séance du 27, ce mercredi, pour les invités italiens dont je parlais. Il s'agit, à notre sens, d'un séminaire au sens propre, mais non pas où on communique la graine du savoir déjà prête à éclore, mais au sens où il s'agit avant tout de réfléchir sur des pratiques, d'être le ferment d'une nouvelle culture. Je crois que c'est pour ça qu'il y a de la structure et de la déstructuration, c'est que c'est une acculturation qui passe par les pratiques personnelles des chercheurs et par la réflexion collective qui est à la fois historique, théorique et technologique. Merci beaucoup.
Comment vous voyez l'évolution dans les institutions de recherche, d'abord francophones, mais aussi européennes peut-être, de ces questions-là, parce que ça reste quand même très long et lourd à bouger, y compris dans cette maison. Voilà. Comment vous voyez ce point d'un point de vue, je dirais, plus sociologique, hein.
En attendant de savoir si Pierre ou Marin vont répondre, je suis le moins bien placé pour répondre, mais je réponds d'une façon évidente. Je suis à l'université et le séminaire est à l'HESS. Je crois que c'est une réponse qui est un peu injuste, mais qui pour l'instant se suffit.
Alors, moi je dirais que ce qu'a dit Pierre, il a parlé de pratique, et les institutions mettent 10, 20, 30 ans à les digérer. Donc je pense que sur le terrain, il y a une avance considérable par rapport à la situation dans la pyramide. C'est pas très grave, sauf si à un moment donné, ça rend les choses impossibles. Il y a un moment où ça va rendre les choses impossibles si effectivement il n'y a pas de digestion par l'institution des digital humanities qui marche au moins sur deux pieds, mais en fait sur autant de professions que ce qu'on connaît historiquement, les archivistes, les documentalistes, les bibliothécaires, etc. Donc de ce point de vue-là, pour le moment, il n'y a pas de prise de conscience du tout, à mon avis, nulle part. Mais en revanche, il y a des possibilités de terrain qui sont totalement ouvertes, et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça avance quand même.
Ah, je voudrais juste aborder un élément de réponse aussi. C'est dommage, parce que c'est une triple réponse. Je voudrais aborder un élément supplémentaire, un des éléments de la réflexion sur les digital humanities. Et on utilise le terme digital humanities en anglais, c'est un peu une sorte de domination apparente du monde anglo-américain, on va dire, dans ce champ. Et moi, une des réflexions que je me faisais récemment, justement en préparant l'ouvrage, c'est que cette domination n'est pas théorique. Elle n'est pas par la puissance de pensée, elle n'est pas par la qualité des réalisations, parce que des projets digital humanities, il y en a partout dans le monde, et il y en a ils sont très nombreux en Europe, mais cette domination, elle tient essentiellement, à mon avis, par la capacité que dans ces pays, en particulier les États-Unis, ils ont eu à avoir une réflexion institutionnelle et une réflexion organisationnelle, en réalité, pour créer des centres de digital humanities. Et donc là, c'est une incitation pour nous à réfléchir en termes institutionnels sur une organisation des structures de recherche qui correspondent à ça, parce que le propre du centre de digital humanities, c'est de fusionner, justement. Hein, c'est de faire travailler ensemble, au sein d'une même structure, des équipes complètement mixtes. Et donc là, il y a un véritable travail. Donc, Marin, tu dis, c'est pas grave. Ben oui, mais OK, mais il y a quand même du boulot. Il y a quand même un défi, là, en termes de réflexion institutionnelle et d'organisation de la recherche, à avoir dans nos pays, pour le coup.
J'en profite pour dire qu'on est en train de créer Synternet Europe, qui est une organisation internationale regroupant des centres en DH, mais en fait, en Europe, ce sera plutôt des projets en humanité numérique pour que les projets puissent se fédérer, avoir une voix pour orienter, justement, avoir une relation avec la CPU, avec les présidents d'université, avec l'Europe, enfin, pour dire, voilà, nous, en tant que responsables de projets d'humanité numérique, on a des besoins qui sont de tel ordre et on a besoin de le communiquer. Donc, si ça vous intéresse, Synternet Europe est en cours de création, donc je suis en train de faire le tour de table, évidemment, sur tous les pays. On a besoin de vraiment tous les pays d'Europe, y compris la France, donc.
Donc ma question fait écho à la précédente, je pense. Votre réponse a permis, je pense, de donner un peu une sorte d'horizon par rapport à la démarche que vous initiez, à travers notamment le séminaire. On voit comment fonctionne le séminaire aujourd'hui, et comment il a pu fonctionner, enfin les deux séminaires au préalable, avant qu'ils ne convergent. Ma question est très simple. L'année prochaine, enfin à partir de septembre, est-ce que vous savez déjà un petit peu quelle forme pourrait prendre ce séminaire? Est-ce que vous allez continuer à agréger d'autres personnalités ou d'autres approches pour l'animer? Ou la question ne se pose déjà
non,
pas, vous voulez faire
non,
un bilan?
Si, la question se pose, le séminaire a été pensé comme ouvert, et donc ce ne sera pas notre séminaire, ça peut être un embryon qui va contribuer à un séminaire qui serait plus collectif, s'il y avait une volonté collective pour qu'on se fédère plus. Donc il ne s'agit pas que nous accueillions, là il s'agit qu'on utilise le modèle de ce qu'on a fait pour agréger d'autres acteurs sur un séminaire d'un autre format avec plus d'acteurs, et donc qui ne serait pas le nôtre mais qui serait celui de l'école ou bien de mouvements de l'école, et de ce point de vue là c'est plutôt au chargé de mission Digital Humanities de l'école des hautes études qu'il faut poser la question, mais voilà, en tout cas nous on est ouverts et il s'agit vraiment de converger. Juste pour information, on enregistre le séminaire, on l'envoie au séminaire équivalent à Lyon, et parce que ça les intéresse, ils font certaines séances avec nous, en asynchrone malheureusement pour le moment, parce que les technologies sont trop limitées pour qu'on le fasse de façon simultanée. Mais voilà, c'est ouvert et il ne s'agit pas du tout de construire une chapelle, surtout pas.
Juste pour résumer d'un mot, si vous permettez, le séminaire is a meeting place. Donc, effectivement, c'est pas le séminaire d'un certain nombre de personnes qui ont une conception très particulière des DH et qui veulent la défendre. C'est plutôt un lieu de rassemblement et de convergence et d'élaboration de discussions collectives.
Toujours sur la même lancée, est-ce que à l'avenir, pour aller plus avant, pour être plus proactif et faire en sorte que les structures comprennent un peu l'intérêt de développer les DH. Est-ce que on pourrait pas exporter ou faire migrer le séminaire, avoir des séances hors les murs ou ce genre de choses, être plus mobile en fait. Est-ce que c'est une éventualité qui...
Alors oui, on peut penser à tout et tout serait absolument super. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que nous organisons tous les trois le séminaire complètement à l'arrache, quand on peut, comme on peut. C'est pour ça que vous avez des annonces sur la liste MLM la veille au soir du... Voilà, donc tout serait super. Mais effectivement, dans cet esprit d'ouverture, si d'autres personnes veulent rejoindre l'équipe et faire grossir le séminaire, et du coup qu'on ait plus de force pour organiser des dispositifs plus performants et plus délocalisés, c'est bien volontiers, bien sûr.
De mon point de vue, le hors les murs, alors on a fait les AdCamp Paris sur une péniche pour commencer, juste pour montrer qu'on était un peu décalé, que ça nous amusait. Après, Pierre a eu mal de mer, donc l'année d'après, on n'a pas pu le refaire. Le mal de mer sur une péniche, c'est bizarre. Enfin bon, c'est un Parisien. Par contre, moi, je suis pas trop pour le hors les murs pour une raison très simple, c'est que ça va nous encombrer de logistique, alors que c'est la logistique sur laquelle il faut qu'on se mobilise, c'est la logistique numérique pour être hors les murs complètement, c'est-à-dire dématérialisé. C'est-à-dire, de mon point de vue, il faut qu'on ait à Condorcet des lieux faciles et en attendant ailleurs, où on va pouvoir avoir un Framapad qui va nous permettre de prendre des notes, un fil Twitter, une visioconférence et un lieu. Et ce lieu, pourquoi ça resterait pas à l'école? Moi, ça me semble très bien. Je crois que c'est sa vocation à l'école. Donc ce lieu, ce serait plutôt de le faire hors les murs, de construire un deuxième lieu numérique. En fait, ça demande de la mobilisation de moyens technologiques dont on a à peu près toutes les briques aujourd'hui, mais pas tout assemblé. L'exemple typique, c'est que toutes les retransmissions en ligne vidéo qu'on a essayé de faire ont échoué parce qu'on est sur du Wi-Fi. Et le débit n'est pas assez élevé. Il faut juste pour arriver à tirer un câble, sauf que le câble, il est condamné. Donc, c'est des moyens de logistique réseau. Et je ne critique pas du tout les services informatiques de l'école qui font de leur mieux et on progresse tous les jours un peu. Mais on voit bien que ce n'est pas encore au cœur de l'activité. Donc, ce n'est pas au cœur de la préoccupation de l'institution. De ce point de vue-là, je me réoriente vers Christian. C'est des questions majeures. Pour pouvoir transmettre une vidéo, il faut un débit filaire et pas un débit aérien. Là, voilà, c'est sur ça qu'on ne peut pas discuter. Et il faut aussi que ce soit facile de créer des comptes. On n'arrive pas à avoir de live tweet dans notre séminaire parce qu'il faut créer des comptes Wi-Fi à chaque séance pour chaque personne qui va être présente, qui vient de l'extérieur. Donc, ce n'est pas très open. Du coup, il n'y a que nous qui pouvons tweeter parce que nous avons le droit d'émettre. Et le réseau, normalement, tel qu'il a été pensé par les universitaires qui l'ont inventé à deux reprises, Internet puis le web, c'est un réseau de pair à pair, c'est-à-dire où tout le monde est égal. C'est-à-dire j'ai le droit d'émettre autant que de recevoir. Et c'est pas un média qui est un robinet qui s'adresse à moi. Et aujourd'hui, nous sommes un média parce que nous sommes trois ou quatre à pouvoir émettre au sujet de notre séminaire. Et c'est contraire aux fondamentaux du web et d'Internet. Et de ce point de vue-là, il manque pas grand-chose, mais juste qu'on ait un Wi-Fi ouvert. Je sais que ça pose des questions légales et d'infrastructure, mais puisque la QTIS est là, je me permets de le dire avec... Je peux ajouter cela dit, encore une fois, ne tirez pas sur le pianiste, parce que les gens qui font les choses au quotidien, on le met en évidence tout ce qui ne marche pas, mais Eduroam marche depuis qu'on est en France, et c'est super. Il y a quand même un certain nombre de choses qui avancent vraiment bien, et donc il faut leur reconnaître ce travail très important, qui est un travail qui est peu récompensé, parce qu'ils sont rarement invités autour des tables et ils sont rarement promus. C'est les gens des services informatiques ou circonvoisins qui font que nos infrastructures fonctionnent.
Je voudrais juste ajouter que dans le cadre de l'axe numérique du LabEx Aztec qui a été mentionné tout à l'heure, nous cherchons aussi à associer les techniciens, les ingénieurs à la réflexion. C'est très difficile. Au moment des réunions, ils travaillent, ils sont en train de maintenir les serveurs, par exemple. Donc là, il y a des problèmes évidents. Et sur la question du séminaire, par exemple, nous disions qu'une façon de faire, c'était de mutualiser des séminaires, d'avoir des séances qu'on échangeait avec d'autres institutions. Il y a par exemple le CNAM, qui a des perspectives de recherche complètement différentes et passionnantes. Comment mutualiser des séminaires? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse.
Je crois que ces questions techniques, il faut les prendre tout à fait au sérieux, parce que ce sont effectivement des gènes, si ce n'est pas des stimulants. Et donc, le problème est de faire, tout à fait dans l'image que vous avez donnée du séminaire, quelque chose qui soit audible dans d'autres cercles et dans d'autres lieux. Mais sincèrement, sur la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire celle de la communication au-delà des murs, moi je suis totalement sur la position de Marin, savoir que ça doit être dans l'école, mais ça doit être complètement ouvert ailleurs. Je rappelle qu'il y a d'autres sites à l'école, dont un qu'il connaît bien, et qu'il est important qu'il y ait ces échanges avec, bien sûr, l'école, mais aussi d'autres institutions. Il me semble que c'est un équipement de base. aujourd'hui. Donc il faut y réfléchir avec toutes les contraintes qui ont été posées. Mais je rappelle, c'est très intéressant effectivement de le poser en termes de ce n'est pas la culture de communication à l'intérieur du milieu scientifique. C'est vrai que c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être sur des formats qui sont des formats classiques de, visioconférence avec toute la lourdeur que ça impose. Mais c'est ce justement, cette avancée, et je crois que Pierre l'a bien défini comme à la fois les sciences humaines et sociales et les techniques, c'est deux pieds sur lesquels il faut avancer conjointement si on veut pouvoir se donner les possibilités d'une véritable science scientifique.